Bonjour, bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Daniel avec vous pour un tout petit moment. Et nous avons Louise à la régie. Bonjour Louise. Article 25, c'est aujourd'hui. Alors, article 25, c'est d'abord du social et du revendicatif. Et après un peu d'interruption, nous sommes en mesure de reprendre dans l'article 26 les mercredis. Alors, au sommaire, de l'actualité, la réforme de l'assurance chômage qui interviendra donc début juillet. Également, la pénibilité au travail, nous allons y venir. Et nous verrons également la gestion de la sécurité sociale, qui gère la sécurité sociale, et comment elle fonctionne. Voilà. Donc, réforme de l'assurance chômage, nous y venons. Actualité sur la réforme de l'assurance chômage 2024. Donc, je le dis, je répète, pour le 1er juillet. Alors, pour commencer, quelques informations qui viennent de différentes radios. France Info, qui dit que la réforme de l'assurance chômage endurcit les règles, d'accord. BFM TV, c'est une réforme criminelle, Sophie Binet de la CGT, bon, qui fustige la réforme. Le Figaro, oui, est-ce qu'il est. La réforme de l'assurance chômage va-t-elle pénaliser la création de start-up en France? Ça, on s'en fiche un peu. Dailymotion, assurance chômage, pourquoi les 53-57 ans sont les grands perdants de cette fameuse réforme? Voilà. Voilà. Assurance chômage, la réforme va faire la poche des chômeurs selon le Parisien. L'ampleur là, c'est complet. Alors, voyons voir un peu ce qu'il en est exactement. La réforme 24 de l'assurance chômage apporte des changements significatifs, notamment la réduction de la durée d'indemnisation, la modification du calcul des indemnités chômage et l'adaptation, je précise, des critères d'éligibilité. Le gouvernement a décidé de maintenir les règles actuelles jusqu'en juin 2024. L'accord prévoit des améliorations pour les primo-entrants, tandis qu'un nouveau mode de calcul de l'allocation chômage est en discussion, reposant sur une moyenne mensuelle de 30 jours. Alors, en savoir plus, réforme de l'assurance chômage, et nous y venons. Quels sont donc les changements de la réforme de l'assurance chômage en 2024? L'assurance chômage a été fondée en 1958 pour soutenir les personnes en période de transition professionnelle. Alors que 2024 approche donc du système, une réforme majeure de l'assurance chômage se profile, portant des changements significatifs, donc pour le 1er juillet 2024. Bon, quels sont les changements des règles d'assurance chômage 2004? Comment anticiper la réforme et bénéficier de l'assurance chômage? Voilà. Les nouvelles règles d'indemnisation du chômage, voilà. Les nouvelles règles sont donc la réduction de la durée d'indemnisation d'activité minimale, pardon. L'un des changements apportés par la réforme de l'assurance chômage de 2024 concerne les primo-entrants, c'est-à-dire les personnes faisant la première demande d'indemnisation chômage et les travailleurs saisonniers. La durée minimale d'activité de manœuvre a été réduite suite à la réforme. Les demandeurs d'emploi devront avoir travaillé pendant au moins 5 mois sur les 2 dernières années, au lieu des 6 mois requis actuellement, pour être éligibles au droit de chômage. Il est toutefois important de souligner que la durée d'indemnisation sera réduite à 6 mois au lieu de 5 mois. Le changement de mode de calcul et des indemnités chômage. Suite à la mise en vigueur de la réforme de l'assurance chômage, le montant de l'allocation sera calculé sur la base d'une durée de 30 jours par mois et ne variera plus sur le nombre réel de jours dans le mois. Cette modification entraînera une réduction d'environ 5 à 6 jours d'indemnisation par an pour le demandeur d'emploi. Bon, et pour connaître votre éligibilité aux indemnités donc chômage, leur durée ainsi que le montant de vos droits à cette allocation, il vous faudra faire une simulation en ligne. Voilà. Bon, d'autres changements de l'assurance chômage, en effet d'autres changements majeurs ont été décidés dans cette fameuse réforme. Une réduction des cotisations patronales à 4% du salaire brut au lieu de 4,5% initialement. Seuls les faits de contrat de moins de mois seront considérés pour le calcul du bonus-malus. La dégressivité de l'allocation pour les demandeurs d'emploi percevant plus de 91,02 par jour s'appliquera désormais au moins de 55 ans au lieu de 57. Voilà. Alors, comment réaliser nos demandes de chômage et d'allocation pour 2024, donc pour la fameuse réforme à venir? Les critères d'éligibilité. Pour bénéficier de l'assurance chômage, les demandeurs doivent répondre à plusieurs critères d'éligibilité définis par Pôle emploi. La perte d'emploi doit être involontaire, n'est pas partir de son plein gré. Les demandeurs doivent justifier d'une durée de 6 mois de travail dans les 24-36 mois derniers, selon leur âge. L'inscription à Pôle emploi doit être en 12 mois suivant la perte de l'emploi, résider en France métropolitaine, bien sûr. Les bénéficiaires doivent activement rechercher un emploi, être physiquement aptes au travail. Voilà. Alors, perte d'emploi involontaire, eh bien, c'est beau tout ça, mais avec, actuellement, avec tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué, ça va devenir compliqué. Les démarches, si vous souhaitez réaliser une demande d'assurance chômage, vous devez respecter les conditions donc, d'éligibilité citées précédemment. Pour réaliser une demande d'allocation chômage, il faut suivre des étapes. Réaliser votre inscription sur le site de Pôle emploi. Maintenant, je parle de Pôle emploi, maintenant c'est France Travail. Ça a changé via une borne d'une agence donc de France Travail ou par téléphone au 39 49. Ça répond ou ça ne répond pas. Généralement, ça répond. Bon, j'avais dit Pôle emploi. Pôle emploi, maintenant, c'est dépassé. Maintenant, c'est France Travail. Hein. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Bon, si France Travail vous convoque pour un entretien dans l'agence sur laquelle vous êtes rattaché, bien sûr, si vous avez déjà bénéficié des allocations de chômage, il vous suffit de mentionner ce que vous avez déjà été inscrit, bien sûr. Il est important de noter que vous bénéficiez de 12 mois après la fin de votre contrat pour réaliser des démarches et bénéficier des allocations. La réforme 2024 de l'assurance chômage en France apporte des changements significatifs, notamment la réduction de la durée d'indemnisation, la modification du calcul des indemnités chômage et l'adaptation des critères. Bon, pour bénéficier des avantages de l'assurance chômage et s'adapter à ce changement, les demandeurs d'emploi doivent s'informer activement et suivre les procédures de demande donc de France Travail afin de connaître le montant de leur indemnisation et la durée de leurs droits. Voilà, c'est fait. C'était un petit rappel donc sur le chômage. Il est 2h06, je vais dire à Louise de mettre un peu de musique si elle veut bien. Merci Louise. Thank you. Voilà, je reprends donc l'émission, toujours sur le même thème. Autre question posée, quelle est la nouvelle réforme de l'assurance chômage? Alors, Gabriel Attal, pour ne pas le nommer, bien sûr, a annoncé donc la bonne nouvelle, réforme de l'assurance chômage en 2024, avec la volonté, il y a de la volonté ce monsieur, c'est terrible, de durcir les règles pour inciter au retour à l'emploi. Voilà. Bon, assurance chômage a réformé et entré intégralement en vigueur au 1er... va rentrer en vigueur au 1er juillet, ça a été dit. Nouvelle réforme de l'assurance chômage par les échos. Pour aller vers le plein emploi et valoriser encore plus le travail, les règles d'indemnisation de l'assurance chômage vont être à nouveau durcies à partir du 1er décembre 2024. Mais en fait, ce sera au mois de juillet. Il y a beaucoup de journaux qui parlent de ça également. Les échos et autres, vers un nouveau tour de vis donc de l'assurance chômage dès le 1er décembre 2024, j'en ai parlé, alors qu'Emmanuel Macron a promis le plein emploi en France à l'horizon 2027. Il voit loin, monsieur. Soit un taux de chômage de l'ordre de 5% de la population active à la fin de son second quinquennat. Voilà. Contre 7,5%, donc les pourcentages s'en fichent un peu. Fin 2023. Bon, là, nous retournons, bien sûr, à l'année dernière. Alors, son premier ministre, Gabriel Attal, avait confirmé le 27 mars donc, de l'année, à 20h ou autre. Au journal de TF1, il souhaitait une nouvelle réforme globale de l'assurance chômage. Eh bien, ça, ils y sont arrivés, voyez-vous. Alors, ce monsieur l'a dit, mon objectif n'est pas de m'en prendre à tel ou tel individu ou au chômeur. C'est de faire bouger le système pour inciter davantage à la reprise d'emploi. Oui, bien, reprise d'emploi, pour ça, il faut qu'il y ait du travail. Bon, certains diront qu'il y a du travail, d'autres diront qu'il n'y en a pas. Il faut savoir, il n'y a pas de juste milieu là-dedans. Enfin, quoi qu'il en soit, généralement, les perdants, c'est toujours les mêmes personnes qui trinquent. Ah, voilà, M. Gabriel Attal, il est beau, il est terrible. C'est un playboy, mais alors, c'est terrible. Bon, on va un peu le cacher. Bon, des interviews à la tribune, donc, dimanche, le chef du gouvernement a présenté les principales mesures qui vont être prises avec les conditions d'accès. Bon, ça, je l'ai dit, et voilà. Pour le Premier ministre, ce n'est pas une réforme d'économie, mais de prospérité et d'activité. Le gain se mesurera par un nombre plus important de Français qui travailleront. Voilà. Donc, on va faire travailler les Français. Et donc, plus de financement pour notre système. Pour leur système, pas pour les salariés ni pour les chômeurs. Hein. Enfin, il assume ses arrières, quoi. Mais ce nouveau tour de vis est rejeté par une galaxie d'opposants, syndicats, gauche et même le renouveau national, dénonçant tant la réforme que les objectifs de la réforme. C'est le pire durcissement des conditions qui sont mises en œuvre depuis toujours à relever force ouvrière. Même le renouveau national s'y met. Mais alors là, lui aussi, il parle pour sa paroisse. Hein. Bon, j'ai rien contre lui. Hein. Alors le décryptage, eh bien, assurance chômage, selon le ministère du Travail, le gouvernement attend de la réforme 3,6 milliards d'euros d'économie. Avec ça, on pourrait faire pas mal de choses. On pourrait indemniser tout le monde. Et projette une augmentation de 90 000 le nombre de personnes en emploi. Voilà. Il a précisé que le gouvernement allait prendre un décret le 1er juillet pour que la réforme puisse entrer en vigueur. Donc la réforme rentre en 1er juillet et sera en vigueur le 1er décembre 2024. Voilà. Donc il reste quelques mois en attendant le changement tant espéré pour nos vaillants dirigeants. Voilà. Bon, cela nécessite bien sûr des systèmes d'information de mise à jour. De France Travail, Expo l'emploi maintenant, les problèmes informatiques, avec tout qui s'ensuit. Bon, emploi qui ne peut être fait du jour au lendemain. Alors pourquoi nouvelle réforme? À quelle règle avons-nous changé? Eh bien voilà, c'est toujours pareil. C'est un peu le jeu question-réponse. Hein. Bon, dans ce dossier-là, avec des liens vers le décryptage des spécialistes, des échos, voilà. Alors pourquoi nouvelle réforme? Une édicte, le cœur de l'assurance chômage. L'assurance chômage est pilotée par les partenaires sociaux, les syndicats, le patronat. Ah, le patronat, c'est bien ça. Via l'UNEDIC, une économie ici, les règles tous les deux à trois ans pour tenir compte des évolutions du marché du travail. Quoique le marché du travail, il n'y a plus beaucoup de marché du travail, croyez-moi. Et pour réformer les paramètres donc, de l'assurance chômage, pour finir, le gouvernement n'a pas besoin de passer par le Parlement. Il doit saisir les partenaires sociaux d'une négociation via une lettre de cadrage, mais en cas d'échec de leur discussion, ils pourront prendre la main par ce décret, et cette fois comme en 2019, ce qui va se produire. Voilà. Bon, en effet, la précédente convention qui devait fixer les évolutions des règles donc, des chômeurs pour indemnité pour la période 2004-2027, négociée à l'automne de 2023, et là on retourne donc en arrière par les partenaires sociaux, n'a pas été signé pour tenir compte de la réforme des retraites et du relèvement de l'âge de départ à 64 ans. C'est-à-dire 64 ans, c'est maintenant, après ce sera 65 ans, 66 ans, et puis voilà, ça n'arrêtera pas, quoi. Et beaucoup de gens, avec le système actuel, ne pourront jamais partir en retraite ou auront une retraite de misère. Bon, les syndicats avaient donné leur aval à la modification des règles donc, pour indemniser les chômeurs âgés, mais en posant une condition que le patronat trouve à l'occasion d'une autre négociation sur les parcours professionnels de l'emploi et l'emploi des seniors qui allaient souffrir et qui allaient favoriser le maintien d'un emploi des salariés en fin de carrière. Négociation qui s'est finalement soldée par un échec le 10 mars 2024 et qui est tombée à l'eau. Et qui a fait tomber donc cet arrangement, ce qu'on appelle les arrangements entre amis. Voilà. Je vais demander à Louise si elle veut bien me mettre un peu de musique. Merci Louise. Et nous changeons de... Voilà, je reprends l'émission. Il est 2h18, nous sommes donc dans les temps. Bon, après cette histoire, c'est pas une histoire, c'est même une tragédie, cette histoire d'assurance chômage. Et croyez-moi, auditrice, nous ne sommes pas encore sortis de là. Bien. On parle très peu de la pénibilité au travail. Pourtant, la pénibilité au travail existe, bel et bien. Ce qu'il faut retenir, c'est l'INRS, Institut national de la recherche et de la sécurité dans le travail. Le dispositif donc, de prévention et de compensation des expositions, à certains facteurs de risque professionnel entier, dispositif pénibilité, concerne des facteurs. de risques liés à des contraintes physiques, un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail. Il vise à évaluer et réduire les effets néfastes de ces choses-là. Voilà. Ah, j'ai pas du souci, je m'en excuse. Voilà, j'ai un petit souci informatique, je m'en excuse. Voilà. Je vais demander à Louise de remettre un peu de musique, s'il te plaît. Merci, Louise. Voilà. Pénibilité au travail, prévention et loi 2004, c'est à ce guide. La pénibilité du travail est un concept lié aux conditions de travail et aux facteurs qui accélèrent la fatigue. Il laisse des tracts sur la santé. Ce guide explique les critères de ça. Alors nous allons voir un peu. Pénibilité au travail, pénibilité et contraintes organisationnelles. Voilà, il y a beaucoup de choses là. Voilà, il y a beaucoup de choses là. Voilà. Pénibilité en France au travail. Dans le droit du travail français, depuis 2012, la pénibilité du travail est définie par l'exposition à un ou plusieurs facteurs de risque professionnels, donc liés à des contraintes physiques marquées, un environnement physique agressif ou un certain rythme de travail susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Bah, c'est un problème de société. Qui pour certaines de ces critères tend à s'étendre selon l'enquête sumaire de 2002-2003. La proportion de salariés exposés à au moins une pénibilité physique dans le sens courant du terme et non selon les critères réglementaires de cette pénibilité. En France, se situe à 56% toute durée hebdomadaire d'exposition confondue. Le moins de 2 heures à plus de 20 heures, ces pourcentages représentent respectivement 980 000 salariés, en intégrant le critère de cumul de pénibilité physique. 4% des salariés, soit 70 000, cumulent au moins deux pénibilités physiques, dont la durée d'exposition est pour chacune supérieure ou égale à 20 heures par semaine. Et la liste des statistiques pourrait être longue dans le domaine. 38,7% des salariés seraient exposés au moins un des 10 facteurs de pénibilité définis par le décret du 30 mars 2011. Selon une étude du niveau d'exposition à la pénibilité fondée sur une cinquantaine de diagnostics des situations de pénibilité conduits entre 2011 et 2013 sur un échantillon de 156 000 salariés de l'industrie et de la distribution. La pénibilité, un concept très complexe, la pénibilité au travail ressentie, c'est-à-dire hors de sa définition réglementaire, est un concept difficile à cerner, notamment parce que son appréciation est en partie subjective et qui peut rendre sa détermination délicate. En effet, les situations de travail impliquent souvent de multiples expositions variant dans le temps et dans l'espace. Certains effets sont dus à la combinaison de ces différents facteurs et peuvent être exacerbés par des vulnérabilités individuelles. La pénibilité du travail est notamment liée donc à l'effort, exposition au bruit, à la poussière, aux vibrations, à des toxiques, mais aussi à d'autres conditions de travail plus subjectives. Le sujet est un salarié avec les enjeux que cela peut impliquer, dont des enjeux sociaux différents, d'une situation de travail à l'autre, selon les individus, et selon le travail aussi. Le parcours de vie de santé et professionnel se combine. De fait, toute éventuelle intervention ergonomique sur la thématique de la pénibilité est socialement située. Il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques de la situation et du contexte au niveau social, économique et technique du moment. Bon, avec cet ensemble de facteurs qui interviennent de façon plus ou moins objective sur la pénibilité au travail, il est également important, je précise, de prendre en compte le vécu de cette pénibilité, en partie pour en comprendre la construction et l'origine dans la situation de travail. Déterminer la pénibilité réglementaire, donc réglementation. Sur le plan réglementaire, les critères de la pénibilité au travail sont désormais complètement définis et applicables depuis 2016. Avant 2007, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, on dirait qu'il y a un léger mur en ce qui concerne la pénibilité au travail. En 2017, 4 des 10 critères, manutention, manuel de charge lourde, posture pénible, vibration mécanique et risque chimique, il ne faut pas oublier, de pénibilité sont supprimés par le gouvernement d'Édouard Philippe à Édouard Philippe. Lors de la réforme du Code du travail, 3 d'entre eux font partie des critères affectant régulièrement les femmes. D'autres critères fortement présents dans les métiers à forte propension féminine, tels que les horaires fragmentés ou environnement de travail de, potentiellement agressif n'ayant pas été pris en compte. Bon, identifier les facteurs de pénibilité, bien sûr, au titre des contraintes physiques marquées, les manutentions manuelles de charge définies, bon, les postures pénibles définies comme position forcée des articulations, les vibrations mécaniques au titre de l'environnement physique agressif, les agents chimiques dangereux mentionnés, y compris les poussières et les fumées, les activités exercées à milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit mentionné au titre de certains rythmes de travail, le travail de nuit et les conditions dans des conditions assez mauvaises également. Bon, le travail en équipe successive alternante, le travail répétitif caractérisé donc par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés sollicitant toute ou partie du membre supérieur à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. Mesures de compensation depuis le 1er octobre 2017. D'après un rapport publié en juillet 2022, par l'Institut national de recherche de la sécurité INRS, seuls 6 des 10 facteurs de risque professionnel concernés par le dispositif pénibilité permettent d'acquérir donc des points sur le compte professionnel de la prévention. Voilà. Activité exercée en milieu hyperbare, température extrême, travail de nuit, travail en équipe, travail répétitif, tout ça, ça influe sur l'individu. Pour les salariés exposés aux 4 facteurs de pénibilité, il est prévu un aménagement du dispositif spécifique de compensation prévu depuis la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, donc des pas anticipés en retraite. Manutention, manuel de charge, posture pénible, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, etc., etc., etc. Bon, envisager l'ampleur de la pénibilité, oui, bien sûr, la pénibilité au travail n'est retenue que si le risque ou le travail, ou le rythme de travail, pardon, considéré est marqué par une amplitude et une durée. C'est typiquement l'occasion de la démarche d'évaluation. Bon, là, chacun ses risques. Hein. Celui qui travaille dans un bureau, ben, il aura une lombalgie. Par contre, celui qui travaille dans un chantier, ce sera peut-être un peu plus grave pour lui. Quoi. Surtout s'il y a un accident. Bon, que ces expositions marquées peuvent être identifiées, déterminer ainsi la pénibilité des situations de travail donc en question. Voilà. Bon. Si la pénibilité au travail est à l'agenda politique, législatif et médiatique, les effets du travail sur la santé demeurent largement méconnus. Ça, on le sait. Bien souvent, le seul point de vue environnement est envisagé dans la pénibilité et sont évacués le rapport subjectif de l'activité même. Voilà, ben j'en resterai là. Je vais quand même apporter une touche un peu personnelle. Dans le milieu du 19e siècle, à l'époque de la métallurgie, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas de médecine du travail, il n'y avait rien du tout. Les travailleurs qui étaient dans la métallurgie, qui étaient dans les mines, qui étaient sur les chantiers, n'avaient aucun moyen de se faire contrôler par rapport donc, aux maladies, aux accidents, tout ça. Il y a eu, malheureusement, cela maintenant n'existe plus, il y a eu ce qu'on appelait le CHSCT. Alors, le CHSCT, c'était le comité d'hygiène et de sécurité dans le travail, qui, malheureusement, a été supprimé et remplacé par quelque chose d'autre. Bon, je n'ai pas le nom exact, mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est une perte assez considérable en ce qui concerne la santé au travail. Étant donné que quand on rentrait dans une entreprise, avant de rentrer dans une entreprise, une société ou autre, on passait des visites médicales. Et un cours d'entreprise au cours des années, une fois par an, c'était un camion généralement qui se déplaçait, et c'était ce qu'on appelait la médecine du travail. Pourquoi que la médecine du travail, maintenant, malheureusement, actuellement, on a fait passer avant tout donc des intérêts économiques. Et, voilà. Ouais, ça vaut pas tout. En fait, c'est quand même une assez perte. Une perte assez grave, quoi. Voilà, il est 2h29, je vais dire à Louise de mettre un peu de musique et je reprends l'émission.
Moi pour flinguer le rap, j'ai vu municipal. Au menu, c'est pétage de décibels. Enfile ton gilet pare-balles. Je sais que la police interpelle et vise avec leur flashball. Je pisse des rimes sur tous les commissariats de France. Les bavures commises, les baveux commis, franches. Et ma prose envers les lois Sarko. Ma couille, on n'a pas fini d'amasser des millions dans le narco. De rouler en merco. Tu peux resserrer le marquage, ça empêchera pas les braquages dans les airs de repos. Nos limites, voilà les normes, contracte l'uniforme sans répit. Des convois et stars se faire shooter sur le DVD en méripite. Pour leur assermentation, enragé comme des pites. De toute façon, pour moi, chaque homme de quartier vaut des chemises en train de s'esquiver des orfèvres. J'ai capté votre concession de l'honneur. Vous m'écœurez comme l'odeur du shit qui sort des fesses d'un charbonneur. Arsenal de gunner, on prend la cavale en runner. On fait cracher les guns et les boomers. On tue force de l'or comme Mesrine. Je vais faire de l'or avec mes rimes en souterrain comme Spadjari.
Tellement de mecs, on dirait que le président est en fait.
Mon rap, un dossier sur l'étagère de Sarko. Toujours les stupéfaciers parce qu'on vend des narcos. Viens dans ma brousse où les membres l'encrossent parce que les flics nous troussent pour nous mettre des coups de crosse. Chez nous qu'on brasse, ils veulent nous mettre les bracelets, flashball au dos. Ils nous contrôlent les bras levés, génération gun, grenade, la cité de Dieu. Du Scarface au 900 Fahrenheit, sa vue de shit et de feu. À Marseille, on franchit le mur à l'aide d'une corde comme Esrine face à un flic armé. On a aucune limite, on se barre, on se meurt les armes en main. Anti-force de l'ordre, ça charbonne, ça regarde pas de. Chacun son job, vous vous pistez sur les toits. Nous on pisse sur la loi, on fait de l'or pendant que vous faites vos heures. Chez nous c'est course poursuite, fusillade matinale. À balai on place les chefs, puisqu'on enchaîne nos cœurs glacés. J'y vois les menottes cassées, tous nos millions placés. Chez nous c'est à vie, anti-homme de loi. Nique sa mère, on navigue, nique l'uniforme, l'état, je mets un doigt.
Comme ces flics qui se suicident, peur de devenir inspecteur. Comme ces flics qui se suicident, peur de devenir inspecteur. Comme ces flics qui se suicident, peur de devenir inspecteur. Comme ces flics qui se suicident, peur de devenir inspecteur.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Radio Galère, 88.4.
La prison isole, sépare les amants, les amantes, les familles, les amis.
L'émission Parloir Libre existe pour maintenir les liens entre l'intérieur et l'extérieur.
Pour que la solidarité traverse les murs.
Pour laisser des messages en direct ou faire des dédicaces musicales à vos proches incarcérés dans les lieux d'enfermement de la région.
Vous pouvez appeler au 04 91 08 28 10. Tous les jeudis de 20h30 à 22h et tous les samedis de 19h à 21h.
Sur Radio Galère 88.4.
Vous pouvez aussi nous écrire à Parloir Libre, Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Parloir Libre, une émission solidaire des enfermés
qui refusent de se résigner.
Solidaire des amis et des familles
qui se démènent tous les jours pour ne pas lâcher
face à une machine à broyer.
Merci, merci Louise, c'est sympa. Bien, il est 3h25 presque, nous rendons l'antenne un peu plus bonheur que prévu. Gestion de la sécurité sociale, tiens, pourquoi pas. La gestion donc de notre bonne vieille sécurité sociale est organisée selon un réseau de caisses locales, structures de droit privé autonome en charge du service des prestations ou du recouvrement et d'un niveau national. Elle repose sur un principe de solidarité, chacun participant à son financement selon ses moyens, l'assurance maladie gère pour le compte du régime général les maladies, branches et accidents de travail. Alors, qu'est-ce que c'est que l'organisation de la sécurité sociale ? Bien, voilà. Ah, j'aime pas. Ah, j'ai un petit souci internet là. Bon, je n'arrive pas à me connecter. Voilà. En France, la sécurité sociale, en France, c'est un système de protection sociale qui vise à protéger donc les individus des conséquences de divers événements ou situations qualifiées de risques sociaux. Voici un résumé des principes composantes de l'organisation. Branche maladie, branche famille, branche accident de travail et branche retraite. Branche autonomie également, voilà. Branche cotisation et recouvrement, etc. Alors la branche maladie, cette branche assure la prise en charge des dépenses de santé des assurés et garantit l'accès aux soins. Elle couvre les risques liés à la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès. C'est compliqué. La branche famille, gère les prestations familiales. Son rôle est essentiel d'atténuer les inégalités de niveau de vie entre les ménages en fonction du nombre d'enfants. Voilà. Branche 3. Accidents du travail et maladies professionnelles, ATMP. Cette branche prend en charge les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle vise à protéger les travailleurs en cas d'incident liés à l'activité professionnelle. Branche 4, la branche retraite gère les prestations liées à la vieillesse et au veuvage. Elle assure le versement des pensions de retraite. Branche autonomie, cette branche s'occupe des prestations liées donc à la perte d'autonomie, notamment pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Et 6, branche de cotisation et recouvrement, elle gère la collection des cotisations sociales et assure le recouvrement des sommes dues par les employeurs et les assurés. Bon, d'un point de vue institutionnel, la sécurité sociale se compose d'organismes de tutelle et de caisses de sécurité appartenant à divers régimes, régimes général, agricoles, spéciaux. Bon, l'État exerce un droit de regard sur la gestion de ces organismes et croyez-moi qu'il surveille bien. Et la direction de la sécurité sociale assure cette tutelle. Elle conçoit les politiques relatives à la sécurité, donc, et leur assure leur mise en œuvre. En somme, la sécurité sociale est un pilier essentiel du système donc, de production sociale en France visant à garantir la solidarité et l'accès aux soins pour tous si vous en avez besoin. Voilà. Il est 14h37, je vais demander à Louise si elle veut que je continue l'émission ou bien s'il veut arrêter. Encore 5 minutes d'émission ? D'accord, ok. Allez, encore 5 minutes d'émission, nous allons voir un peu ce qu'il a dit. Mais... Bien, il y a actuellement à Marseille une entreprise de blanchisserie qui s'appelle Blanchisserie Pamar. C'est une blanchisserie qui se trouve pas très loin de la cité Bassins à Marseille, dans le 15e arrondissement de Marseille. Et dans cette blanchisserie, des salariés ont exercé il y a maintenant un peu plus d'un an leur droit de retrait, compte tenu des pressions venant donc de la direction, pression physique, menaces et tout ce qui pouvait s'en suivre donc par derrière. Ces salariés-là, que je connais d'ailleurs très bien, ont donc exercé le droit de retrait. Et en exerçant le droit de retrait, ils ont conservé ainsi donc leurs revenus. Et ce qui est très important, cela leur permet, comme ça s'appelle, donc, de continuer donc à militer, à essayer donc de comme ça s'appelle. D'être tous les jours, pratiquement à la grille pour faire voir qu'ils sont là, qu'ils sont toujours là, et qu'ils sont prêts à reprendre donc leur travail. Mais le grand problème dans tout ça, c'est que la direction ne veut rien entendre et veut à tout prix, qu'on s'appelle les, les licenciés par rapport aux droits d'auteur qu'ils ont exercés. Et cela fait maintenant une bataille juridique. Alors, si vous désirez les soutenir, eh bien vous le trouverez tous les jours, tous les matins, avenue Bois-Bredan, à proximité de la cité Bassens, cité que je connais d'ailleurs très bien, parce que j'y étais moi-même il y a très très longtemps. J'avais 16 ou 17 ans à l'époque. Voilà. Donc, vous pouvez leur rendre visite, leur apporter des petits quelque chose, enfin de pouvoir un peu les soulager. À noter quand même qu'ils sont aidés par l'ANC, l'Association des communistes, et aussi le syndicat CGT, donc des Bouches-du-Rhône. Voilà. Il est 14h39, je pense qu'on prend de l'antenne si tu veux. Bien, donc notre émission se termine et Louise va reprendre certainement l'antenne pour une autre émission qui devrait pas tarder à venir. Allez, bon après-midi à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. A noter que mercredi nous recevrons la Libre Pensée. Allez, bon après-midi à tout le monde.